Europe 1, la France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans la France bouge sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Ici, pendant une heure, des initiatives positives, des solutions et des pépites françaises. À la veille de la journée mondiale de l'eau, quelles sont les solutions et les actions liées à la préservation de cette ressource naturelle? Comment préserver et redistribuer l'eau? L'eau minérale, reconnue par le ministère de la Santé, on va en parler avec la patronne de ce soir. C'est vous, Cathy Lehec, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France bouge. Vous êtes la directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Bienvenue à vous. Autour de la table, bonsoir Clara Léger.
Bonsoir Elisabeth.
Connaissez-vous les bienfaits, vous, de l'eau minérale?
Eh bien oui, une eau minérale a une forte teneur en minéraux. Ça veut dire qu'elle apporte les nutriments essentiels dont on a besoin et dont ont besoin nos cellules pour bien fonctionner.
Et vous allez rentrer dans le détail, évidemment, pendant l'émission. Pendant cette belle France bouge dédiée à l'eau, que faire des bouteilles en plastique d'eau minérale? On a déniché un robot qui les recycle, ces bouteilles. Ce robot s'appelle Bibot. Bonsoir Benoît Pagé.
Bonsoir.
C'est vous qui l'avez créé, ce robot?
On est un peu une équipe.
Vous êtes toujours l'équipe, vous avez bien raison. Et puis en plus de ça, vous, votre parcours, il est fou parce que votre première boîte, vous l'avez montée à l'âge de 8 ans, je crois.
Ouais, alors j'ai pas monté une boîte à l'âge de 8 ans.
Non,
parce
mais
que,
l'esprit était là.
Mais c'est ça, ouais, j'ai toujours aimé entreprendre.
Vous allez nous raconter tout ça. L'autre start-up de ce soir, elle s'appelle WeTulip. Bonsoir Yvette Rosenbeck.
Bonsoir.
Bienvenue dans la France bouge. Vous avez mis au point des carafes filtrantes, innovantes. Il paraît qu'elles sont très simples à utiliser, fabriquées avec des matériaux pas communs. Je crois que vous avez utilisé le charbon, c'est ça?
Exactement.
Vous allez aussi tout nous dire, mais surtout, allez-vous convaincre tous les deux, la coach de ce soir? Elle a été entrepreneur, elle l'est toujours, elle a revendu sa boîte aujourd'hui. Elle est la directrice exécutive conseil en développement durable au sein du cabinet Accenture pour la France et le Benelux. Son nom, c'est Marie-Georges. Bonsoir Marie.
Bonsoir Elisabeth.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Vous avez un beau sourire, je suis sûre que ça vous a inspiré cette émission.
Absolument, là vraiment l'eau, c'est un enjeu hyper important, donc je suis ravie qu'on parle d'eau.
Formidable. Allez, la France bouge sur Europe 1, c'est parti. Aux manettes de l'émission, Christophe Pierrot. C'est l'émission des audacieux et nous sommes ensemble jusqu'à 21h.
La France bouge. Elle fait tourner la boîte.
Et c'est vous qui allez faire tourner la boîte ce soir, Cathy Lehec, en cette veille de la journée mondiale de l'eau. Cette journée mondiale est nécessaire pour sensibiliser nous toutes et tous à l'importance vitale de l'eau ainsi que sa gestion durable. Elle a été instituée par les Nations Unies, cette journée mondiale de l'eau. Elle date de 1993. Alors Cathy Lehec, vous êtes la directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc d'abord, on va démarrer par un pitch. C'est le rituel de la France bouge, c'est-à-dire que chaque patronne, chaque patron, chaque dirigeant nous joue le jeu en une minute, nous raconte sa fonction et ce qui est important pour lui. Est-ce que vous êtes prête, Cathy Lehec?
Allons-y.
Allez, on vous écoute, top chrono.
Alors, mais donc déjà pour me présenter, donc en fait, j'ai un parcours plutôt scientifique. Je suis docteur en hydrologie et environnement. Et je vais essayer au travers de mon métier de vous amener sur les territoires, là où prend la source, en fait, là où prend source les eaux minérales. Comment dire, gérer les ressources en eau, ça veut dire quoi? C'est les préserver, donc les connaître, les préserver. Préserver d'un point de vue de leur qualité, mais préserver également leur pérennité. Voilà, comment s'assurer que pour les années qui viennent, ces sources continueront à s'écouler et que l'on pourra encore les boire et s'hydrater avec ces eaux saines. Voilà, c'est ça finalement le cœur de mon métier. C'est finalement, dans notre métier de minéralier, c'est le premier métier le plus important qui est celui de la pérennité de l'eau.
Merci pour votre pitch, c'est fini?
Je peux vous en dire plus.
Qu'est-ce qu'est une eau minérale? Mais merci en tout cas de vous être prêtée à cet exercice du pitch, Cathy Lehec, directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Bah tiens, justement, c'est quoi une eau minérale, Clara Léger?
Alors, c'est une eau qui contient au moins 500 mg de minéraux dissous par litre d'eau. C'est une eau qui a une teneur en minéraux plus élevée qu'une eau de source, puisqu'en fait, ça dépend de là où l'eau coule au niveau des sous-sols. L'eau de source, elle coule moins profondément dans le sol, donc elle a moins de minéraux qu'une eau minérale qui coule plus profondément.
Vous validez, Cathy Lehec?
Oui, alors, je valide
exactement et
je compléterai.
Voilà,
c'est pas tout. Déjà, parlons d'eau minérale et parlons d'eau minérale chez Danone. Evian, c'est une eau minérale qui est née dans les Alpes et qui naît grâce au contact avec des roches glaciaires qui ont été déposées il y a plusieurs milliers d'années. Volvic est une autre minérale, mais elle prend sa source en plein cœur de la chaîne des volcans d'Auvergne. Et puis nous avons deux autres eaux minérales.
Danone, là vous représentez Volvic et Evian Badois.
Badoit et la Salvetat. Donc Badoit qui prend naissance dans la Loire, hein, qui est une eau minérale naturellement gazeuse. Et la Salvetat, alors qu'elle est connue parce qu'elle est très très pauvre en sel, c'est qui est rare pour une eau minérale naturellement gazeuse, et qui elle naît dans l'Hérault, dans le sud.
Donc vous êtes minéralier et vous le disiez pendant votre pitch, vous, votre principale fonction, c'est comment ces sources vont-elles continuer à s'écouler. C'est ça votre enjeu qui est majeur aujourd'hui quand on sait le stress hydrique qu'il y a partout, hein, cette sécheresse qu'il y a dans tous les territoires, dans le monde entier. Vous avez donc une mission carrément.
C'est une mission, c'est effectivement une mission qui tourne autour d'une hydratation saine, en tout cas c'est ce sur quoi on s'engage tous les jours pour préserver ses ressources. Et à ce titre, je voudrais apporter un complément sur qu'est-ce qu'est l'eau minérale. En fait, les eaux minérales, il y en a très très peu en France. Il y en a quelques dizaines.
Ça représente quoi ?
En fait, en termes de...
Sur l'eau, de manière globale.
De façon globale, si je compare par exemple au prélèvement d'eau sur l'eau douce que l'on peut avoir en France, l'eau minérale représente 0,03% seulement de la quantité d'eau que l'on prélève pour consommer.
Ah, c'est peu, hein, Marie-Jean.
C'est peu. Et en même temps, c'est essentiel parce que c'est vrai qu'en termes de qualité, l'eau minérale doit répondre aux critères les plus stricts en termes de qualité. C'est-à-dire, ces eaux doivent venir des profondeurs des roches. Ce sont des eaux de pluie qui circulent en profondeur et qui sont sur des territoires où il y a des roches particulières qui vont être en capacité, par cette interaction aux roches, de leur fournir des éléments minéraux et des oligo-éléments que vous évoquiez.
Clara.
Donc, qui sont complètement naturels grâce au contact avec ces roches. Et ces roches sont aussi des filtres naturels qui permettent de les purifier, c'est-à-dire que ce sont des eaux qui sont microbiologiquement saines. Et par exemple, les vies en volviques, ce sont des eaux qui peuvent être bues par des nourrissons ou par des personnes de santé fragiles tous les jours et directement, en fait. C'est pour moi ce qui fait vraiment la valeur de mon métier et j'aimerais, en fait, à la veille, comme vous le dites, de la Journée mondiale de l'eau, de mesurer, en fait, la chance que l'on a en France de pouvoir boire de l'eau qui est 100% naturelle, qui est absolument pas chlorée.
Pourquoi vous dites que c'est une chance en France ? Parce que par rapport à nos voisins, par rapport à la situation géographique, nous avons de la chance d'avoir cette eau pure.
Nous avons la chance, effectivement, c'est ça. Il y a des pays où il n'y a plus du tout d'eau consommable. On a en fait la chance en France d'avoir cette possibilité. Grâce en fait à la mise en bouteille, il n'y a pas nécessité à habiter sur le lieu de la source pour pouvoir les consommer. Et ce sont des eaux qui sont reconnues par l'Académie de médecine comme ayant des effets bénéfiques pour la santé. D'ailleurs, au siècle dernier, elles étaient vendues qu'en pharmacie. Et aujourd'hui... 93% des Français ont au moins acheté une eau en bouteille, en fait, au cours de l'année en France.
Donc, on l'a compris, vous dites qu'il y a un enjeu de santé publique à consommer de l'eau minérale. Vous, ce soir, Cathy Lehec, je rappelle que vous êtes la directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Ça signifie Danone pour c'est Volvic, Evian et Badoit et Salvetat. Okay. Quand on parle d'eau minérale, on parle aussi d'embouteillage d'eau. Ces eaux sont vendues en bouteille. Il y a plusieurs sortes de bouteilles. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît ?
Alors, quand on parle d'embouteillage, ce qui est très important, c'est quel matériau, quel contenant pour respecter ces critères de qualité qui sont très élevés. Donc, le choix...
Quand vous parlez des critères de qualité, c'est celui de la qualité de l'eau. Ces bienfaits de ce que vous venez de nous dire.
Cette pureté de l'eau qui doit être préservée depuis la source où on la capte à plusieurs centaines de mètres de profondeur jusqu'au consommateur. Et donc, le choix de l'emballage, il est primordial. Il est très important d'avoir matériaux qui soient inertes et qui préservent ses qualités. Donc aujourd'hui...
C'est quoi alors ces matériaux ? Est-ce que vous pouvez nous faire la décomposition de la bouteille d'eau d'Evian que vous avez devant vous, puisque vous représentez cette belle entreprise ?
Alors il y a deux types de contenants majoritairement aujourd'hui pour nos eaux embouteillées. Il y a donc le verre et notamment le verre recyclé qui permet en fait de préserver cette qualité d'eau. Malgré tout, avec un inconvénient pour le verre qui est notamment son poids, Et puis, les enjeux et la consommation énergétique pour fabriquer une bouteille en verre, la recycler, etc.
On les trouve surtout dans les restaurations
hein. principalement.
Oui, oui.
Et ensuite, donc, c'est le plastique et un type de plastique particulier qui est on appelle ça le PET. Mmh. En fait, c'est un plastique qui a pour avantage d'être 100% recyclable, qui a principalement été utilisé à partir des années 90, qui faisait suite à un autre plastique qui, lui, ne l'était pas. Alors, 100% recyclable, c'est bien, mais après, il faut que ce soit recyclé. Mmh. Et aujourd'hui, chez Danone, on a eu avec la marque Evian, la première marque en 2008 qui a intégré du plastique recyclé dans nos bouteilles.
Donc, ce fameux PET.
Voilà, recyclé veut dire qu'une bouteille a déjà servi, qu'elle est récupérée, elle est broyée et elle permet ensuite de redevenir une bouteille.
Et d'en créer une autre. Parce que d'après le syndicat des minéraliers, le taux de recyclage des bouteilles en PET est actuellement de 57%. Vous, c'est beaucoup plus?
Alors, nous aujourd'hui...
Le taux de recyclage, hein, je ne dis pas... voilà.
Aujourd'hui, nous, nos bouteilles, pour Evian, cette année, en 2024, nous aurons 100% des bouteilles Evian produites avec 100% de plastique recyclé. Volvic a déjà plusieurs gammes de bouteilles qui sont avec 100% de plastique recyclé. Mmh. Et l'année prochaine, ça sera la totalité de la gamme. Donc, c'est là-dessus sur quoi on s'est engagé. Mmh. Et ça, c'est majeur. C'est majeur parce que la
ça
bouteille
va être une première,
ne doit pas
là,
être
2024
un déchet.
Pour Evian, ça va être...
C'est 2024,
c'est cette
année.
C'est une première.
C'est une première.
Bah donc voilà. Donc vous nous annoncez ce soir, Cathy Lehec, que 100% des bouteilles d'Evian seront recyclées. C'est une bonne nouvelle, Marie-Georges.
Seront fabriquées avec 100% de plastique recyclé.
Seront fabriquées avec 100% de plastique recyclé. Mais est-ce qu'elle... Non mais alors c'est important. Est-ce que le taux de recyclage sera de 100%?
Alors, le point que vous posez après, c'est le devenir de la bouteille. En France, c'est pas assez performant.
Mais non, bah 57%, c'est pas assez.
C'est pas
encore.
Assez. Aujourd'hui, en termes de points de collecte et de points de recyclage, c'est majeur qu'il puisse y avoir une montée vers une performance, en fait. Alors comment? C'est vrai que nous, chez Danone, on est favorable depuis le départ à la consigne. Pourquoi? Parce que la consigne...
Enfin, ça fait 4 ans qu'on nous parle, 5 ans du retour
je
de la consigne.
Je suis d'accord avec vous. Je
moi,
suis
franchement, est-ce vous. Qu'autour de la table, vous mettez vos bouteilles à la consigne?
Bah non,
mais
on ne sait
pas
comment faire.
Mais
en
il
fait,
n'y en a pas. Alors, il faut
je suis d'accord
un
avec
rôle
vous.
Là-dessus à jouer.
Je suis d'accord avec vous, mais je crois que des initiatives vont être présentées pour montrer comment on augmente ce taux. Et ça, c'est majeur. Je pense que c'est un engagement collectif. En tout cas, nous, on y contribue au travers de 100% de plastique recyclé. Plus il y aura de plastique disponible, mieux ce sera pour l'environnement. On
donc,
allège aussi...
Donc, de plastique recyclé, mais le taux de recyclage, c'est pas encore
nos
ça.
Bouteilles.
Marie-Georges.
Non, mais au niveau mondial, aujourd'hui, il faut quand même signaler que sur la production mondiale de plastique, on a 90% des plastiques qui proviennent de ressources fossiles et 10% seulement qui proviennent de plastique recyclé ou bien de ce qu'on appelle maintenant les plastiques biosourcés, c'est-à-dire qui sont produits à partir de matières naturelles et qui sont pas produites à partir de ressources fossiles. Donc 10% sur une demande mondiale de plastique qui ne fait que croître, c'est quand même très peu. Mmh. Donc effectivement, on manque de matières premières pour faire du plastique recyclé. Donc pour avoir plus de matières premières, il faut collecter davantage. Et donc on en vient à ce qu'on évoquait là, qui est la nécessité d'avoir une collecte beaucoup plus efficace
et
des plastiques.
Plus collective, et on va en parler.
Et on va en parler avec Bibot et beaucoup plus d'économie circulaire pour collecter beaucoup plus de matières pour pouvoir avoir du plastique recyclé.
Parce que vous, votre enjeu, Cathy Lehec, on a compris, vous êtes dans cette dynamique, mais donc l'enjeu, c'est d'en récupérer le maximum aussi.
En fait, nous, notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, on a des eaux qui sont d'une qualité extrême. On a besoin d'avoir un emballage qui permet de préserver cette qualité. Mmh. Et notre sensibilité à l'environnement, on gère des ressources naturelles. On a besoin, en fait, qu'il y ait aussi des emballages qui soient compatibles avec cette protection de l'environnement.
Avec cette qualité.
Donc,
et
majeur,
ce qui va autour.
Voilà. C'est vraiment ce qui tient, qui nous prend dans les tripes.
Mais
en
oui,
fait.
Mais je l'entends.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que toute initiative qui permettra de progresser en termes de réutilisation d'emballages qui ne doivent pas être des déchets, mais qui doivent être des emballages, est positive.
Marie-Georges, vous êtes la coach de ce soir.
J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut imaginer, on pourrait imaginer, un système de vrac pour le conditionnement et la distribution des eaux minérales?
Oui, c'est effectivement expérimenté. Donc ensuite, toute la question du vrac, c'est quand vous avez une ressource avec des tels niveaux de qualité, l'absence de contamination microbiologique, la préservation de cette qualité majeure. Donc aujourd'hui, il est important qu'il y ait une garantie du produit, Hein, je le rappelle, il y a des bébés qui consomment ce produit-là sans aucun impact, qu'elle reste 100% naturelle, pas d'impact de l'homme. Donc la question du vrac amène effectivement beaucoup d'interrogations sur cette capacité de préserver.
Vous avez
testé,
vous avez mené les expérimentations.
Mais
vous avez déjà des premiers résultats de l'expérimentation de l'Evian en vrac?
Alors, il y a des premiers résultats, donc effectivement, au moment venu, ils pourront vous être présentés, mais je pense que par rapport à la consommation partout, dont chacun a besoin, tout au long de l'année, en fonction de son lieu de déplacement ou de vie, le vrac ne pourra pas être la solution à tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est convaincus que le 100% de plastique recyclé, ces boucles, en fait, infinies de réutilisation pour éviter la création de nouveaux plastiques est majeure.
Donc, on disait, le taux de recyclage est que de 57%. Est-ce que ça, rassurez-nous, est-ce que ça augmente un petit peu chaque année ou on est sur un plafond là? On ne va pas aller...
Alors, nous, en tout cas, dans nos bouteilles, dans nos productions, on en utilise
ça
de plus en plus.
Gauche, je ne sais pas pourquoi ils vont tout nous dire tout dans un instant. Allez-y, Cathy Lehec.
Oui, je disais, nous, en tout cas, dans la production de nos bouteilles, ça a fortement augmenté. Je le disais, on est passé à 100%. Donc, ce qui est bien au-delà des critères réglementaires qui sont fixés à 25%.
On reste sur l'eau minérale avec vous, Clara Léger. Il y en a, elles sont différentes les eaux minérales. Hein. Et ça, vous êtes allée regarder dans le détail, Clara Léger.
Oui, parce qu'on en parlait, les eaux minérales, c'est donc des eaux qui ont des minéraux. Il y a des eaux avec des teneurs fortes en sulfate pour accélérer le transit intestinal quand on a des problèmes à ce niveau-là. Il y a des eaux avec des teneurs fortes en magnésium pour éviter le stress, la fatigue, les maux de tête. Il y a des eaux avec des teneurs en calcium qu'on boit quand on a des carences en calcium ou qu'on mange peu de produits laitiers. Et il y a aussi des eaux avec une forte teneur en sodium pour aider notamment les sportifs qui font beaucoup de sport et qui aide à la récupération musculaire.
C'est quel est le lot qui est le plus vendu chez vous, chez Danone, Cathy Lehec, qui a le plus de succès?
Alors, sur le marché français, c'est Volvic et Evian qui sont coude à coude et qui sont les deux principales.
Et quelle est leur différence, les bienfaits de l'une et les bienfaits de l'autre, c'est quoi?
Alors, dans
Evian,
les deux
on a compris, c'est le nourrisson.
Oui, là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que dans le domaine de l'eau embouteillée, l'eau minérale est un type d'eau, celle qui a les critères de qualité les plus élevés. Et ensuite, l'eau minérale, elle est vraiment liée à un terroir, donc à des types de roches. Donc, une roche volcanique en Auvergne va donner en fait des quantités de minéraux, calcium, magnésium, silice, qui vont être différentes de ce que va lui conférer les roches qui sont dans les Alpes et qui sont issues du glacier. Donc, c'est pour ça que dans le domaine de l'eau minérale, il y a plusieurs compositions et du coup, plusieurs goûts. Et ce qui est important pour la santé, c'est aussi cet équilibre des minéraux. C'est pour ça que l'Académie de médecine les a reconnus comme étant bénéfice pour la santé. Parce que, par exemple, des eaux comme Evian et Volvic sont peu minéralisées. Donc, à la limite des 500 mg de minéraux
par
litre.
Oui.
Ce qui veut dire qu'on peut les boire tout le temps et à tout âge. Voilà, ce qui n'est pas le cas des eaux qui sont très, très minéralisées, qui sont plutôt, on va dire, des compléments d'appoint en fonction des besoins et des activités de chacun.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez La France bouge, l'émission des entrepreneurs et des belles entreprises françaises. Et ce soir, nous sommes à quelques heures de la journée mondiale de l'eau. L'eau, ce bien précieux. Cette journée mondiale qui vise à faire face aux problèmes sociétaux actuels, notamment ceux liés à l'accès à l'eau, à la distribution des ressources. Pour en parler, la patronne des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Ces sources d'eau, ce sont des eaux que vous connaissez certainement, comme Volvic, Salvetat, Evian ou encore Badois. Nous sommes avec vous, Clara Léger. Justement, Clara, est-ce que on boit beaucoup, on parlait de Salvetat, est-ce qu'on boit beaucoup d'eau gazeuse, nous, en France?
On boit en moyenne en France 4 fois par semaine des boissons gazeuses et de l'eau gazeuse. On est environ 3 millions à boire de l'eau gazeuse. On est 78% à en boire principalement pendant les repas.
Et vous, autour de la table, vous êtes plutôt eau gazeuse, Marie-Georges?
Les deux, ou plate ou gazeuse.
Et vous, Cathy Lehec, c'est quoi votre...
Moi, je les aime toutes, surtout les marques. Non, je m'occupe.
Et ça fait rire. Benoît Pagé, je vous vois sourire depuis tout à l'heure.
Parce que c'est un sujet complexe et c'est vrai que...
Non, mais c'est complexe, mais on se dit tout ce soir. Hein.
Absolument. Hein? Moi, quand je bois de l'eau en bouteille, elle est gazeuse.
Voilà, donc voilà, vous n'avez pas fermé l'eau en bouteille, vous buvez tout.
Oui, bien sûr.
Évidemment. Et vous, Yvette Rosenbeck, vous êtes quoi? Plutôt gazeuse, eau minérale ou de source?
Plutôt l'eau plate.
Plutôt l'eau plate.
Et l'eau vitule, évidemment.
Et vous, que buvez-vous? Heureusement, il y en a pour tous les goûts. C'est ce qu'a constaté Antoine Fenech au micro Europe 1 de la France Bouge. Écoutez.
Au quotidien, je bois plutôt de l'eau du robinet parce que ça ne demande pas d'aller acheter des packs lourds et encombrants dans les magasins. Je trouve que l'eau de Paris a un goût qui me convient, qui est plutôt neutre et assez équilibré.
Je bois de l'eau du robinet, c'est surtout pour pas avoir à porter les packs d'eau et puis pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Je reconnais que ça dépend des villes. Il y a certaines villes où l'eau est meilleure que d'autres ou elle est plus calcaire que d'autres.
J'ai de l'eau à mon réfrigérateur, c'est un petit luxe que je me suis offert, donc je bois cette eau-là. Avant, je m'achetais de l'eau en bouteille, oui, de l'eau minérale. Elles ont un goût quand même appréciable et elles sont bonnes pour la santé.
Je ne bois que de l'eau du robinet. Pourquoi ? C'est simple, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, que ce soit en Chine, au Vietnam ou même en Inde, et personne ne va se poser la question de boire l'eau du robinet, évidemment. Aujourd'hui, si on a la chance d'avoir de l'eau gratuite, c'est exceptionnel.
Alors moi, je suis très haut en bouteille. Je bois beaucoup des viandes de Volvic et de Vittel. Avant, j'étais vraiment eau du robinet, mais il y a beaucoup de calcaire, je trouve. Et même avec un filtre, il y a toujours un arrière-goût. Puis voilà, moi, je préfère vraiment l'eau en bouteille.
Voilà, il y en a pour tous les goûts. On l'a vu, Clara, vous êtes plutôt...
Moi, je suis eau plate et eau du robinet.
Eau
parce
plate.
Que je veux pas porter les packs d'eau dans mon escalier.
Voilà, moi, ouais. Je comprends. Chaque explication est valable. Cathy Lehec, vous êtes la directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Il y a une enquête qui a été publiée à la fin du mois de janvier où il est ressorti qu'une large partie des eaux vendues sous l'étiquette eau minérale naturelle ou eau de source subissaient des traitements de purification similaires à ceux utilisés pour l'eau du robinet. J'ai pas vu Danone cité dans cette enquête. Peut-être que je l'ai raté.
Danone répecte la réglementation
ça,
avec les critères stricts.
Vous répondez quoi à ça ? Parce que ils l'ont reconnu. Hein, y a des grandes marques concernées. Il y a Nestlé Waters, hein, c'est Perrier, Vittel et Par, ou encore Alma. Et eux, ils l'ont reconnu d'avoir eu recours à ce type de traitement par le passé. Danone dit quoi ?
Danone dit que je confirme que dans le cadre de nos marques, ce sont des eaux qui sont préservées, qui respectent complètement les critères stricts. Hein. C'est des eaux qui sont extrêmement contrôlées. On a plus de 800 contrôles par jour.
Par jour ?
Par jour. On a
qui
des audits tous les deux jours. Alors, c'est contrôlé par les autorités, c'est contrôlé aussi par les distributeurs, ceux qui nous achètent l'eau. On a aussi nos propres contrôles internes. Et surtout, chez Danone, on a mis en place depuis plus de 30 ans des programmes de protection des territoires sur lesquels les eaux s'infiltrent. Et cette démarche, elle a été initiée de façon collective avec les communes, avec les agriculteurs, pour justement concilier le développement local sur ces zones, qui sont des territoires où il y a de la vie, il y a l'agriculture, il y a des écoles, etc., avec ces enjeux de qualité d'eau. Mmh. Et en fait, ce sont ces initiatives qui ont débuté il y a plusieurs dizaines d'années qui permettent aujourd'hui de garantir à nos consommateurs que l'eau reste avec toutes ses caractéristiques originelles. Et oui. Sans traitement, sans impact.
Parce que cette eau minérale naturelle, on le rappelle, elle est censée être pure d'origine et sans traitement depuis la source, ce qui permet aussi aux marques de la vendre à un certain prix, qu'elle n'est pas, gratuite. On va poursuivre justement cette France Bouge dédiée à l'eau, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau qui a lieu donc demain vendredi, avec un entrepreneur qui lui a réfléchi à créer une solution pour le cycle de vie des bouteilles en plastique.
Europe 1.
Le talent de la France bouge.
Et vous êtes un talent ce soir, Benoît Pagé. Vous avez 52 ans et toute une carrière dans l'entrepreneuriat. Et je le disais tout à l'heure, vous avez, paraît-il, monté votre première boîte à 8 ans.
Ouais, alors c'est anecdotique.
Mais non, c'est pas ça.
À 8 ans, probablement besoin de liberté et d'argent de poche. J'allais voir mes voisins pour prendre des commandes de viennoiseries les vendredis et samedis soir pour les leur livrer à domicile le lendemain matin dans mon immeuble.
Sympa.
Moyennant forcément une petite marge. Et à l'époque, j'optimisais même la chaîne logistique parce que j'achetais mes bons au même endroit. Donc en fait, je limitais mes déplacements.
Vous étiez où ? Vous avez grandi où ?
C'est à Paris.
C'était à Paris.
À Boulogne, pour être précis.
À Boulogne. Vous avez fait des études de commerce et vous ne vous êtes pas arrêté là puisque une entreprise là, un âge adulte que vous avez monté dans la distribution automatique de café.
Oui, première expérience entrepreneuriale. J'ai toujours aimé entreprendre et c'était probablement à l'époque, ce que j'ai cru, c'est que c'était un secteur facile. Ce qui n'est jamais le cas dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de secteur facile.
Qu'est-ce qui est plus difficile ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'entrepreneuriat ?
Je pense le démarrage. Le démarrage d'une entreprise seule, sans argent, sans fonds, sans clients. Je pense que c'est les premières semaines, les premiers mois qui sont compliqués quand on monte une boîte. Et c'est la résilience. Enfin, c'est le fait de dire, à la fin, il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle, ni au deuxième, ni même au millième. Parce qu'il y en a, ils sont quotidiens. Et je crois que l'obstacle, ou en tout cas la difficulté, elle est dans cette capacité à être résilient et à dire ok, c'est pas grave, je continue.
Et ça vous est arrivé ?
Ah mais ça m'arrive tous les jours. Tous les jours. C'est ce qui fait aussi, je pense, la beauté de ça. C'est que on a tous les jours des multiples victoires sur notre quotidien.
Deuxième entreprise dans les médias.
Ouais.
Hein, pourquoi ?
Opportunité, rencontre.
Rencontre, souvent, c'est ce qui fait la création d'une
rencontre
entreprise.
Rencontre qui a donné une idée et donc l'idée est devenue réalité après avoir revendu effectivement la première boîte.
Alors comment vous allez petit à petit vers le marché de la bouteille en plastique en PET ? Donc on parle des bouteilles d'eau ce soir sur Europe 1.
En fait, il y a une logique absolue parce que des médias, quand on était dans cette activité média, on avait racheté une entreprise qui était un peu en déperdition, qui s'appelait à l'époque Cannibal et qui était une solution financée par la publicité et donc c'était in fine dans notre métier et dont la mission était de collecter et de recycler des canettes. Et alors là où on a été assez mal inspiré, c'est qu'on a racheté ça en 2009. En 2009, il y a eu une crise assez majeure. Dans les secteurs hyper impactés, il y a eu la communication et donc forcément à un moment donné, ça a été assez complexe. Et ça nous a amené à repenser complètement le modèle économique de l'époque de Cannibal et à recréer from scratch un projet qui était dédié à la collecte des bouteilles, des canettes et des gobelets en plastique et qui nous a amené à effectivement développer un projet industriel, ce qui était pour moi une vraie découverte.
Et oui. Donc vous êtes entouré d'ingénieurs, ouais, pour mettre au point cette technologie.
Exactement.
Cette technologie, donc c'est le Bebot.
Alors à l'époque, Cannibal nous a amené vers effectivement ce marché qui est celui du PET et donc de la bouteille plastique.
500 milliards de bouteilles qui sont produites chaque année.
Dans le monde.
Dans le monde, donc il y a un marché, forcément.
Forcément.
On est en 2017, donc vous créez Bebot. On va revenir dans le détail juste après votre pitch, Benoît Pagé. Pour Bebot, on vous écoute.
Alors 500 milliards, c'est effectivement le chiffre des bouteilles en plastique qui sont consommées, produites dans le monde. 15 milliards en France, donc c'est ça qui nous a absolument interpellés. Surtout quand on sait que ces bouteilles-là sont dans des endroits qu'on connaît, souvent la poubelle, même jaune. Qu'on sait aussi que les embouteilleurs en cherchent de plus en plus pour justement s'inscrire dans une logique d'économie circulaire. Que la bouteille redevienne une bouteille dans cette boucle fermée, une bouteille qui est recyclée. C'est d'abord une bouteille qui ne pollue pas parce qu'elle ne finit pas dans l'océan. C'est une bouteille qui se substitue à du pétrole. Donc en fait, quand on sait où sont les bouteilles et qu'on sait comment les recycler, on s'est dit mais c'est un paradoxe absolu que 100% de nos bouteilles en PET soient pas recyclées. Et donc on s'est attaché à ça. Comment ça se fait ? Et en fait, la réponse est souvent est économique. Et ce qui coûte très cher dans la bouteille plastique, c'est son volume. Donc on s'est dit comment réduire les coûts et raccourcir la boucle. Et en fait, on a inventé Bebot qui en fait transforme la bouteille directement en ce qu'on appelle nous des paillettes, triées par couleur. Donc il y a beaucoup d'intelligence pour reconnaître la bouteille, la trier, la transformer immédiatement dans ce produit qui est un produit semi-transformé qu'on appelle paillettes, qu'on va revendre directement à des recycleurs et qui est retransformé en bouteille pour une très très grosse partie de ce qu'on collecte, avec une approche qui est à dire, ok, il faut aussi récompenser le consommateur en mettant cette solution devant lui et de façon très ludique. Donc c'est quelque chose qu'on trouve dans les supermarchés.
Donc voilà, merci pour votre pitch, Benoît Pagé, dirigeant et cofondateur de Bebot. Donc c'est quoi ? C'est une petite, c'est un robot, c'est une machine, ça ressemble à quoi ?
Alors ouais, c'est un robot, c'est pour ça que Bebot d'ailleurs, B comme bouteille, bot comme robot, qu'on retrouve dans les supermarchés, souvent à l'entrée.
Donc vous avez des clients, c'est la grande distrib,
absolument. Parmi nos clients, il y a la grande distribution, mais on pourrait aussi dire les recycleurs qui ont besoin de matière. Nous,
la matière dont on parlait tout à l'heure avec Marie-Georges.
Absolument, la matière recyclée pour refaire des bouteilles, qui revendent en fait aux embouteilleurs, notamment Danone. Et c'est vrai que les embouteilleurs et Danone en tête cherchent de plus en plus de matière recyclée.
C'est ce que vous disiez.
Donc c'est pour nous un moyen de la collecter à la source.
Parce que vous faites en sorte que la bouteille recyclée va vraiment pouvoir redevenir une bouteille, mais plusieurs fois. C'est ça.
Alors oui, mais on n'est pas recycleur. Nous, on est collecteur, trieur. Alors c'est pour ça que vous me voyez sourire tout à l'heure. Oui. Quand on disait, 50% de bouteilles recyclées, c'est vrai. mais pas forcément en bouteille. Parce qu'une bouteille, pour être... une bouteille, c'est un contact alimentaire. Et donc, préserver ça, d'abord la qualité des produits, aussi la santé des consommateurs, il faut une qualité qui soit très élevée. Et donc là, il faut évidemment que le plastique recyclé soit de la meilleure qualité possible. Évidemment...
Et ça, on y arrive ?
Alors, moins on le mélange et moins on l'abîme, entre guillemets, plus on y arrive. C'est
donc
assez logique.
Il vaut mieux qu'une bouteille en plastique se retransforme en bouteille en plastique et ainsi de suite.
Et il vaut mieux qu'elle ne soit pas mélangée et écrasée avec d'autres déchets qui vont à un moment donné la salir, si je simplifie un peu.
Non, mais on comprend beaucoup mieux comme ça.
Et donc, nous, l'idée, c'était de dire non seulement on le fait à la source et on la pré-transforme immédiatement en paillettes. Et le gros avantage de ça, c'est que vous avez beaucoup moins de volume. Et dans les déchets, ce qui coûte cher, c'est les mètres cubes. Et ce qui rapporte, dans la mesure où vous revendez la matière, c'est la
paillette. Donc, c'est une paillette de plastique qui a une valeur de revente plus élevé.
Exactement. Et on est 25 fois plus dans un mètre cube que si la bouteille n'est pas transformée. Donc c'est beaucoup plus efficient, beaucoup moins de transport, beaucoup moins de CO2, beaucoup moins d'euros dépensés. Donc une boucle beaucoup plus vertueuse. Et un consommateur qui est là-dessus gagnant, parce que d'abord, là c'était pour nous un point clé, c'était qu'il faut qu'il ait envie de mettre sa bouteille dans la bibotte. Donc ça, très ludique, c'est transparent, les enfants adorent, mes enfants passent des heures à passer des bouteilles dans la bibotte.
On a envie de voir, on a envie d'essayer, mais je n'ai jamais remarqué, comment on les reconnaît vos robots?
Alors elles sont assez reconnaissables, elles ont un vert bleu assez reconnaissable, elles sont transparentes en partie basse, ont un design qui est assez...
J'en ai déjà vu, moi.
C'est vrai?
Oui, je me suis jamais servi.
Alors, il
n'y
en a pas beaucoup à Paris, en fait.
Non, mais ça veut dire qu'il faut qu'on aille au supermarché avec son sac rempli de bouteilles vides.
Ouais,
non, mais c'est une organisation,
absolument.
C'est pas...
Mais comme on a maintenant des sacs, parce qu'on vient avec son sac au supermarché, porter un sac de bouteilles vides, c'est pas très lourd. Et ça rentre assez facilement dans le quotidien des gens qui, en fait, les consommateurs sont assez demandeurs. Donc, en fait, ça leur va assez bien. Et puis, il y a du pouvoir d'achat en face.
Clara Léger.
Moi, j'en ai déjà vu, je m'en suis jamais servie. Est-ce qu'on met toute la bouteille, bouchon inclus?
Ouais. Ou on la plie,
il faut d'abord la plier, retirer le bouchon et le mettre dans un autre bac. Non, on met tout directement comme ça?
On met tout directement comme ça pour que ça soit le plus simple possible. On n'a pas à choisir. C'est la machine qui reconnaît la bouteille qui va la trier. Le bouchon est de plus en plus attaché à la bouteille pour des raisons aussi écologiques parce que c'est quelque chose qui se perdait dans les cycles. Donc là, forcément, si on demandait aux gens d'enlever un bouchon qui est attaché, ça devient compliqué. Donc non, tout est inclus. L'étiquette, le bouchon. Derrière, on va séparer ces matières-là pour mieux recycler la bouteille. Mais oui, et effectivement, le consommateur voit la bouteille se faire transformer devant lui, ce qui est très ludique.
Cathy Lehec, vous êtes la directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Votre regard sur Bibotte?
Je trouve que c'est une superbe initiative.
Mais oui, mais c'est aussi une réponse aux problématiques que vous évoquiez tout à l'heure.
Non, mais je pense que le changement, il viendra des entrepreneurs, de la population, des entreprises. C'est à nous tous une responsabilité de bouger les lignes et puis de faire en sorte qu'on protège tous ensemble l'environnement. Donc,
bravo. Vous travaillez avec des startups, vous, chez Danone, justement pour répondre à ces problématiques?
Oui, alors on travaille avec une startup qui s'appelle Lémonterie, qui a également mis en fait une réinsertion au travail pour récupérer effectivement les bouteilles, etc. Mais plus il y a d'initiatives et plus le résultat sera important. Et d'ailleurs,
oui, parce que vous, votre enjeu, j'ai compris, grâce à vous aussi, Marie-Georges, ce soir, c'est le volume.
Absolument.
C'est d'en collecter le plus possible.
D'en collecter un maximum. Ce qui est vraiment très intéressant dans Bibotte, c'est effectivement qu'on permet de compresser d'une certaine manière le processus de recyclage. C'est-à-dire que sur un même lieu, vous ramenez votre bouteille et elle est transformée en paillettes directement plutôt que d'être transportée dans des camions, dans un endroit où elle est triée, puis ensuite recyclée, etc. Donc on compresse, donc on le rend plus efficient. Et la deuxième chose que je trouve vraiment très intéressante, c'est que c'est un moyen d'engager et d'embarquer le consommateur, c'est-à-dire de lui montrer les choses, donc déjà de développer sa compréhension de ce qui se passe, parce qu'en fait, plastique recyclé, PET recyclé, je veux dire, on a perdu tout le monde.
Non, mais c'est
donc
vrai,
là, au moins, on montre clairement qu'est-ce que ça veut dire recycler du plastique. Ça veut dire qu'on transforme une bouteille en petite paillette qu'on va réutiliser pour fabriquer d'autres bouteilles. Donc, on augmente sa compréhension et puis, effectivement, on le rend acteur et il participe à ce processus-là d'aller vers une économie plus circulaire et il change son comportement aussi, puisqu'il doit, comme vous le disiez, Elisabeth, il doit ramener ses bouteilles dans son sac quand il vient au supermarché. Et donc tout ça, ça développe ses prises de conscience et ce consommateur acteur, parce que si le consommateur ne transforme pas son comportement, eh bien on peut faire tout ce qu'on veut en amont de la chaîne, ça ne va pas fonctionner. Donc on a vraiment besoin que l'ensemble des acteurs de la chaîne se mettent ensemble pour arriver à changer les choses.
C'est ça, parce que nous, en tant que consommateurs, on aura une connaissance de tout ce processus du recyclage. Il y a écrit sur vos robots... ce que va devenir la bouteille que je dépose.
Il est complètement connecté, interactif. Il y a un grand écran tactile. Donc, en fait, il y a beaucoup de pédagogie dedans pour justement expliquer ce que devient la bouteille. Et on sait à quel point c'est hyper important de rassurer. En fait, on parlait de 57% de bouteilles recyclées en France. Il y a des régions où c'est dramatique. Paris, c'est 10%. Donc, à un moment donné, les gens se disent, mais on me demande...
Et pourquoi Paris, c'est aussi dramatique?
Alors, il y a plein de raisons, c'est multifactoriel, mais une des raisons, c'est les immeubles. C'est qu'en fait, vous partagez votre poubelle jaune avec d'autres habitants.
Surtout qu'il n'y en a pas assez, je le dis chaque soir, je crois que je le dis, il n'y a pas assez de poubelles jaunes.
Oui, mais il y a des immeubles dans le Marais qui datent du 17e où ils ne se sont pas dit, on va faire des locales poubelles de 15 mètres carrés pour faire 5 flux. Donc... À l'époque, donc on est un peu contraint par, à un moment donné, des constructions qui datent pas d'hier. Donc c'est pas
adapté à nos nouvelles, à nos nouvelles vies, tout simplement, et de la prise en compte de l'environnement. Combien de partenaires distributeurs aujourd'hui vous êtes présents?
J'ai le droit de les citer, moi.
Vous avez quasiment cité tous. Le nom à tous.
On travaille les gros, c'est Carrefour avec lequel on se développe de plus en plus. Leclerc qui est historiquement notre premier client et qui est le plus gros. Système U qui est aussi un très gros contributeur et en ce moment Intermarché qui y va de plus en plus. Donc en fait, il en manque un peu.
Mais c'est quoi vos besoins? Je pensais qu'il y en avait, que vous avez besoin de d'autres distributeurs, mais vous avez tout le monde.
De bouteilles.
On
a besoin de bouteilles.
Alors justement,
on a besoin de bouteilles.
Buvez plus.
on va encore plus boire.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Eh oui, elle bouge cette France. En plus, il paraît qu'il y a de l'eau sur Mars, Cathy Lehec.
Il paraît, hein? J'ai pas encore été...
Allez, je rappelle que vous êtes la directrice des sources de minéral au sein du groupe
bientôt,
Danone.
Bientôt.
Oui, bientôt, comme vous le dites, hein, Benoît Paget, vous êtes le cofondateur, dirigeant de Bibot. Nous sommes toujours avec vous, Marie-Georges, la coach de ce soir, directrice exécutive conseil en développement durable au sein du cabinet Accenture pour la France, pour le Benelux. On va découvrir la prochaine start-up de ce soir avec vous, Yvette Rosenbeck, fondatrice de WeTulip, et nous sommes avec Clara Léger. Ce soir, on parle de l'eau, mais pourquoi? Parce que nous sommes à quelques heures de la journée mondiale de l'eau. C'est très important d'en parler parce que l'eau, il faut la préserver, il faut préserver la qualité de l'eau, notamment dans nos sols, mais aussi dans nos bouteilles. C'est ce que vous faites, Cathy Lehec, dans votre fonction de directrice des sources d'eau minérale au sein du groupe Danone. Alors, on était en train de parler de Bibot avant d'écouter, d'être transporté par David Bowie. Bibot, c'est donc un petit robot qui nous permet de déposer dans la grande distribution, dans les supermarchés. On va avec nos petites bouteilles vides en plastique, en PET, et on les dépose. Et là, grâce à vous, le cycle de la bouteille se poursuit. Par magie.
Ouais,
c'est quoi la magie? C'est quoi la baguette magique? Elles vont où une fois qu'on les dépose?
La baguette magique, c'est vraiment effectivement...
Elle se transforme en paillettes.
Mais c'est surtout que le consommateur fasse ce geste-là et ait envie de le faire, se sente rassuré quand il le fait. Je crois que l'enjeu est là. Et c'est vrai que de temps en temps, l'organisation actuelle ne le rassure pas. Donc il y a une forme de défiance ou de manque de confiance. Je crois que l'idée, c'est quand même de lui donner confiance dans le fait que quand il fait quelque chose, ça sert à quelque chose.
Oui, qu'il soit utile.
Et c'est vrai que derrière ça, il y a évidemment un tout petit peu aussi la récompense. Parce que même si quand on interroge nos utilisateurs, parce qu'on le fait beaucoup, notamment à travers la Bibot, mais en fait il dit oui, je le fais pour la planète, pour mes enfants, pour l'avenir, et quand on lui dit mais s'il n'y a pas un ou deux centimes de d'incitation, est-ce que vous le feriez, la réponse est moins claire. Donc il y a besoin,
il faut qu'il y en ait partout. Aujourd'hui il y en a 600-700, c'est ça, dans la grande distribution. Vous visez un potentiel de 5000 machines en France,
sans consigne.
Pourquoi vous parlez de la consigne là? On n'est pas dans la consigne, on est dans les bouteilles en plastique recyclé.
Ah oui, mais la consigne, c'est un principe de caution sur un emballage. C'est ce qu'on connaissait il y a quelques dizaines d'années sur le verre.
Il y a longtemps, oui.
Mais en fait, le débat sur la consigne qui revient régulièrement et qui est effectivement un enjeu, c'est dire si on consigne tous les emballages plastiques et notamment les bouteilles, c'est le meilleur moyen de les récupérer pour les recycler. Donc il y a bien sûr la consigne sur le verre qu'on connaît, mais il y a aussi la consigne que font les Allemands ou que font les pays du nord de l'Europe, qui est à la fois sur les bouteilles plastiques,
surtout
sur les canettes,
d'accord,
et qui permet de récupérer 95-98% des bouteilles pour les recycler.
Et donc on aura du volume. Et c'est ce que vous nous disiez, Cathy Lehec, on a besoin de volume pour bien recycler. Marie-Georges.
Vous le disiez tout à l'heure, Benoît, ce qui est le plus difficile, c'est pas tellement de convaincre les supermarchés, puisque pour les supermarchés, il y a un modèle économique, en fait. Vous leur permettez de capter de la matière que eux vont revendre. Donc, il y a un modèle économique. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut pas augmenter l'incentive
pour les gens qui rapportent leurs bouteilles. Parce qu'en fait, vous le disiez, on manque de bouteilles. Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on rapporte sa bouteille, on est un peu payé. On récupère un peu d'argent.
Une petite récompense.
Une petite récompense. On récupère
quelques centimes par bouteille.
Voilà, un ou deux centimes par bouteille. Ouais. Donc c'est quand même un élément qui vous donne envie de le faire. Si on avait peut-être une rémunération un peu plus importante, peut-être qu'il y aurait davantage de gens qui rapporteraient leurs bouteilles. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un modèle possible de partage de la valeur avec les distributeurs?
Alors, la réponse est évidemment dans une bouteille rapporte aujourd'hui à peu près 6 centimes d'euros. En fait, la valeur économique du poids de la bouteille, c'est 6 centimes d'euros. Donc, à un moment donné, c'est entre 3 et 6, parce que ça dépend quand même du prix à la tonne de ce PET recyclé qui varie. Il a tendance à monter parce que de plus en plus de monde en cherche. Donc là, c'est l'offre et la demande qui font le prix. C'est pour l'instant, cette incitation, elle est financée par les distributeurs qui le voient comme évidemment un outil de fidélisation de leurs clients parce que ça leur permet de capter des nouveaux clients et c'est un bon de réduction. Donc forcément, ça incite
leur permet
les consommateurs
de revenir dans le supermarché et de consommer.
Donc ils sont là-dessus gagnants et d'ailleurs tout le monde aime et eux aussi. Et la revente de la matière permet, et c'est d'ailleurs une révolution dans le recyclage, c'est la revente qui finance l'intégralité de la boucle, sans la partie incitation. Donc en fait, la réponse est oui, si le distributeur est capable de payer un peu plus cher pour dire, moi je veux encore plus inciter. Alors là aussi, la concurrence fait qu'il y en a un qui va être à 1 centime, d'autres à 2, et puis peut-être pourquoi pas demain à 3 pour attirer plus de clients chez lui.
Vous restez avec nous autour de la table de La France Bouge. Donc, on a parlé de l'eau, des eaux en bouteille depuis le début de l'émission, des eaux minérales. Mais il y a aussi d'autres alternatives pour consommer de l'eau. Elle est de plus en plus utilisée. C'est la carafe ou la gourde. Et une entrepreneur a choisi d'en créer une.
Europe 1, La France Bouge.
La pépite.
Avec vous, Yvette Rosenbeck, vous avez fondé WeTulip il y a 3 ans, WeTulip. Alors vous venez des Pays-Bas, vous avez quitté les Pays-Bas à l'âge de 24 ans pour aller à Londres. Ensuite, vous êtes partie, vous avez vécu en Suisse et vous êtes arrivée en France. Et là, vous avez travaillé dans le conseil, dans des cabinets de conseil. Vous avez même travaillé à la bourse Euronext. Donc énormément d'expériences professionnelles. Qu'est-ce qui vous a mené à vous diriger vers la fabrication de carafes pour l'eau, carafes d'eau?
Oui, bonsoir. C'est surtout une démarche personnelle de réduire les déchets. Moi, je considère que le meilleur déchet, c'est le déchet n'est pas produit du tout. Et donc, venaient beaucoup des questions sur comment faire. Et donc, c'était l'eau. Moi, j'utilisais plutôt une carafe filtrante avec un cartouche en plastique que je souhaitais remplacer, d'avoir quelque chose de beaucoup plus vers des produits naturels, sans plastique, qui ont quand même un impact sur notre santé.
Donc c'est comme ça que vous vous êtes dit, je vais créer WeTulip. Donc vous vous êtes entouré de personnes pour créer cette carafe. Qu'a-t-elle de si particulier, cette première carafe filtrante 100% naturelle et durable? C'est comme ça que vous la décrivez. Vous allez pitcher et on se retrouve tout de suite après. C'est à vous.
Alors, chers auditeurs, vous voulez boire un eau de robinet agréable et plus saine, sans polluer la planète? WeTulip a la solution. Nous avons créé la première carafe filtrante en verre, intégrant du charbon bambou naturel, sans cartouche et qu'on a envie de mettre sur la table. Alors, WeTulip porte une mission simple, faciliter les gestes écologiques à la maison. Donc, chaque seconde, il y a 175 bouteilles en plastique qui sont vendues en France. Et malheureusement, comme on a vu, le plastique se recycle souvent mal et nécessite beaucoup de ressources. Alors, WeTulip propose de purifier l'eau de robinet avec du charbon actif 100% naturel dans une carafe spécialement conçue à cet usage. Notre charbon élimine les mauvais goûts et les mauvaises odeurs, et tout en réduisant les toxines. Et le meilleur, notre charbon est 100% végétal et peut être composté après usage. Donc, la carafe WePure est éco-conçue, elle est principalement fabriquée en France à partir de matériaux durables, recyclables, et nos clients peuvent même prolonger sa vie grâce à des pièces détachées. Donc, WePure, la carafe filtrante écologique pour tous.
Merci pour votre pitch, Yvette Rosenbeck. Alors, ce soir, on est avec des minéraliers, avec des personnes avec vous, Benoît Pagé, vous recyclez les bouteilles en plastique. On n'est pas là pour dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Vous avez opté pour la carafe filtrante en verre. Quel regard portez-vous là-dessus? Allez, Cathy Lehec, patronne des eaux minérales pour le groupe Danone. Même si ce n'est pas votre cœur de métier.
C'est pas mon cœur de métier. C'est vrai que ça offre une possibilité en tout cas complémentaire pour ceux qui boivent l'eau du robinet.
Oui, alors on l'a dit, c'est pas le même goût, c'est pas reconnu, reconnu par le ministère de la Santé, etc. Mais pour ceux qui font ce choix, ça peut avoir une utilité.
Ça peut apporter une possibilité. Après, c'est vrai que nous, on est sur des métiers différents. Vous parliez de votre sensibilité et puis votre attachement à l'environnement. C'est vrai que pour moi, ce qui fait sens, c'est de préserver déjà les ressources naturelles qui existent et également le fait de devoir maintenir à un si haut niveau de qualité ces ressources. Ça veut dire qu'il faut anticiper et il faut qu'on protège les territoires où l'eau s'infiltre et leur donne naissance. Et en fait, quand on protège l'eau, ça nous permet, nous, d'accompagner les agriculteurs vers des pratiques respectueuses aussi du sol, de l'eau, etc.
Donc, ce sont deux philosophies qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent pour chacun. Marie-Georges, quel regard portez-vous ? Vous êtes la coach de ce soir sur Europe 1, sur Oui Tulip, cette première carafe en verre.
Non, d'abord, félicitations Yvette. Et je souligne que vous avez été accompagnée par Willa, qui est un excellent incubateur
au féminin. Nous avons Flore Aignel en coach.
Absolument.
De Willa.
Et donc, ce que je trouve, c'est un produit vraiment très innovant. C'est-à-dire qu'on connaît bien la carafe Brita depuis les années 70, parce que ça remonte à très
longtemps.
Absolument. Fin des années 60, Brita, donc ça remonte à assez longtemps. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est un produit que j'ai trouvé très innovant, qui est innovant sur le plan technologique.
C'est celle que vous l'avez apporté.
Oui, on a le charbon de bambou,
très joli,
qui n'est pas du charbon de bois. On a un bouton intelligent, on a un couvercle intelligent qui permet de savoir combien de fois on a utilisé le charbon. Donc ça, c'est aussi de la technologie. On a un design qui est tout à fait intéressant, beaucoup plus esthétique que ce à quoi on est habitué, assez pratique puisque avec des systèmes de filtres, c'est pas toujours très facile à laver. C'est comme un puzzle, il faut défaire, refaire, alors que là, c'est en un seul morceau. Et puis, c'est éco-conçu, vous l'avez dit Yvette, notamment les matériaux, le Made in France, etc. Et puis, c'est assez esthétique,
sur une table. Je vais mettre des fleurs dedans.
On peut directement l'utiliser comme carafe. Donc, il y a une vraie innovation 360 sur ce produit.
Donc, c'est validé à 100% par Marie-Georges. Vous avez des besoins, c'est pour ça que vous êtes ici aussi ce soir. Vous cherchez évidemment à vous faire connaître. Elle coûte combien cette carafe ?
Alors, on a toute une gamme, en fait, mais ça commence à 40€ avec des recharges jusqu'à 75€ quand on va plutôt vers la carafe en couleur, par exemple, avec le bouchon ingénieux dont on a parlé.
Alors, comment pouvez-vous l'aider ce soir, Marie-Georges, en tant que coach de la France Bouge ?
Alors, ce qui est très difficile, c'est les modèles qu'on appelle B2C, c'est-à-dire d'essayer de s'adresser directement aux consommateurs. Ça demande des investissements marketing très importants. C'est pas toujours évident quand on est
directement chez les gens à
distribution. Quand on est en B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux entreprises, c'est des modèles économiques qui sont toujours plus faciles. Donc effectivement, j'ai vu que vous vous adressiez aux entreprises. On a vu par exemple le succès d'une start-up qui est autour de l'eau aussi, qui s'appelle Castali, qui travaille aujourd'hui énormément avec les entreprises. Donc avec les entreprises, il y a sans doute quelque chose à faire avec potentiellement de la personnalisation. Vous avez des assez belles carafes, c'est des choses qu'on peut peut-être personnaliser pour les entreprises. Et puis je pensais aussi à la restauration. Vous en parliez pas, mais est-ce que la restauration, c'est un marché potentiel? Après tout, s'il y a de la place pour Castali, il y a de la place pour Oui Tulip.
Vous êtes en contact déjà avec des restaurateurs ?
Alors les restaurateurs, oui, on était en contact. Certains, ça pourra marcher. D'autres, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut assurer deux services. Donc en fait, il faut quand même attendre une heure pour que le charbon agisse en fait.
Donc sur le charbon.
Donc pour le premier service, ça va très bien. Après, s'il faut rapidement remplir à nouveau la carafe, c'est un peu plus compliqué.
Il faut que ce soit plus au point pour ça.
Exactement.
Marie-Georges.
Mais nous, on s'adresse quand même aussi à la distribution. Donc on a un contact avec plein d'enseignes comme Fnac ou certaines autres. Nature et Découverte, on a aussi sur leur marketplace. Donc on fait pas que du B2C parce que c'est important. C'est un produit que les consommateurs ne connaissent pas encore très bien. Et donc il faut les accompagner, donc c'est très important pour nous aussi d'être en contact direct avec le consommateur et pas que de vendre par internet.
Elle est déjà chez Nature et Découverte, vous pensiez aussi à Naturalia,
des magasins de distribution spécialisés, et aussi peut-être aller sur un segment sur lesquels les propositions qui sont plus fonctionnelles ne vont pas, boutique de déco et des choses sur lesquelles la carafe Brita ne peut pas aller.
Vous reviendrez nous raconter la suite, j'espère.
Avec plaisir.
Et vous, Yvette Rosenbeck, c'est déjà la fin de La France Bouge, ça passe mais vraiment trop vite. Merci. Vous nous donnez aussi des nouvelles, Benoît Pagé. Quand vous aurez atteint les... Vous voulez chercher 6000
On veut effectivement... en fait, on a collecté 200 millions de bouteilles. On voudrait arriver très vite au milliard.
Au milliard. Eh bien, je suis sûre qu'on va découvrir la suite très rapidement. Vous reviendrez nous en parler dans La France Bouge. Merci, Cathy Lehec, d'être
venue
ce soir.
Merci à vous. C'était un vrai plaisir.
Excellente. Mais nous aussi. Et excellente Journée mondiale de l'eau. Vous avez un rôle à jouer. Vous faites avancer la société. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice des eaux d'eau minérales au sein du groupe Danone. Merci, Marie-Georges.
Merci beaucoup.
On se retrouve très bientôt dans La France Bouge. Clara Léger, on se retrouve lundi.
À lundi.
Europe 1.
La France Bouge. 20h, 21h. Elisabeth Assayag.